Chapitre 12. Après plus de 20 années de mariage, Valentine de la Verberie, devenue Madame Fauvel, n'avait éprouvé qu'une douleur réelle, encore était-ce une de ces douleurs qui fatalement vous atteignent en nos plus chères affections. En 1859, elle avait perdu sa mère, prise d'une fluxion de poitrine pendant un de ses fréquents voyages à Paris. Depuis, Madame Fauvel se plaisait à le répéter, elle n'avait plus eu un sujet sérieux de chagrin, elle n'avait pas eu une occasion de verser une larme. Qu'avait-elle à souhaiter? Après tant d'années, André restait pour elle ce qu'il était au premier jour de leur union. À l'amour qui n'avait pas diminué, se joignait cette intimité délicieuse qui résulte d'une longue conformité de pensée et une confiance sans bornes. Tout avait réussi au gré de ce fortuné ménage. André avait voulu être riche, il l'était bien au-delà de ses espérances, bien au-delà surtout de ses désirs et de ceux de Valentine. Leurs deux fils, Lucien et Abel, beaux comme leur mère, nobles cœurs, vaillantes intelligences, étaient de ces élus qui sont la glorification de leur famille et portent au dehors comme un reflet du bonheur domestique. Il était dit qu'il ne manquerait rien aux félicités de Valentine. Pour les heures de solitude, quand par hasard son mari et ses fils s'éloignaient d'une soirée, elle avait une compagne, une jeune fille accomplie, Madeleine, élevée par elle, qu'elle aimait comme ses propres enfants, qui avait pour elle les tendresses attentives d'une fille dévouée. Madeleine était une nièce de M. Fauvel, qui avait perdu ses parents, de pauvres honnêtes gens, quand elle était encore au berceau, et que Valentine avait voulu recueillir, peut-être en souvenir du pauvre abandonné de Londres. Il lui semblait que Dieu, pour cette bonne œuvre, la bénirait, et que Madeleine serait l'ange gardien de la maison. Le jour de l'arrivée de l'orpheline, M. Fauvel avait déclaré qu'il voulait lui ouvrir un compte, et en effet, il avait fait inscrire 10 000 francs pour la dot de Madeleine. Ces 10 000 francs, le riche banquier s'était amusé à les faire valoir d'une façon extraordinaire. Lui qui, pour son compte, n'avait jamais risqué une spéculation douteuse, y prenait plaisir à jouer sur les valeurs les plus invraisemblables avec l'argent de sa nièce. Ce n'était qu'un jeu, aussi y gagnait-il toujours, si bien qu'en 15 ans, les 10 000 francs étaient devenus 500 000. Ils avaient donc raison, ceux qui enviaient la famille Fauvel. Même à la longue, les cuisants remords et les soucis de Valentine faisaient trêve. À la bienfaisante influence de cette atmosphère de bonheur, elle avait presque trouvé l'oubli et la paix de la conscience. Elle avait si cruellement expié sa faute, elle avait tant souffert d'avoir trompé André qu'elle se croyait en comme quitte avec le sort. Elle osait maintenant envisager l'avenir. Sa jeunesse perdue dans un brouillard opaque n'était plus pour elle que le souvenir d'un songe pénible. Oui, elle se croyait sauvée quand, pendant une absence de son mari appelé en province par des intérêts graves, un jour du mois de novembre, dans l'après-midi, un des domestiques lui apporta une lettre remise chez le concierge par un inconnu qui avait refusé de dire son nom. Sans que le plus vague pressentiment fît trembler et hésiter sa main, elle brisa l'enveloppe et lut. « Madame, est-ce trop compté sur la mémoire de votre cœur que d'espérer une demi-heure d'entretien ? Demain, entre 2 et 3 heures, j'aurai l'honneur de me présenter à votre hôtel. Marquis de Clamoran. Par bonheur, Madame Fauvel était seule. Une angoisse aussi affreuse que celle qui précède la mort étreignit le cœur de la pauvre femme à l'instant où d'un coup d'œil elle parcourut le billet. 10 fois elle le relut à demi-voix, comme pour se bien pénétrer de l'épouvantable réalité, pour se prouver qu'elle n'était pas victime d'une hallucination. Ce n'est qu'après bien du temps qu'elle put recueillir ses idées plus éparpillées que les feuilles d'automne après l'ouragan, qu'elle put réfléchir. Alors elle commença à se dire que c'était alarmé trop tôt et inutilement. De qui était cette lettre? De Gaston, sans doute. Eh bien, quelle raison de trembler! Gaston, revenu en France, voulait la revoir. Elle comprenait ce désir. Mais elle connaissait assez cet homme, jadis tant aimé, pour savoir qu'elle n'avait rien à redouter de lui. Il viendrait, il la trouverait mariée à un autre, vieillie, mère de famille. Ils échangeraient un souvenir, un regret peut-être, elle lui rendrait le dépôt qu'il lui avait confié, et ce serait tout. Mais elle était assaillie de doutes affreux. Révélerait-elle à Gaston qu'elle avait eu un fils de lui? Avouer, oh, mais c'était se livrer. C'était mettre à la merci d'un homme, le plus loyal et le plus honnête certainement, mais enfin d'un homme, non seulement son honneur et son bonheur à elle, mais l'honneur et le bonheur de son mari et de ses enfants. Se taire, c'était commettre un crime. C'était, après avoir abandonné son enfant, après l'avoir privé des soins et des caresses d'une mère, lui voler le nom et la fortune de son père. Elle se demandait quelle décision prendre quand on vint la prévenir que le dîner était servi. Mais elle ne se sentait pas le courage de descendre. Affronter les regards de ses fils était au-dessus de ses forces. Elle se dit très souffrante et gagna sa chambre, heureuse pour la première fois de l'absence de son mari. Bientôt, Madeleine, inquiète, accourut, mais elle la renvoya, disant que ce n'était rien qu'un mal de tête et qu'elle voulait essayer de dormir. Elle voulait rester seule en face du malheur, et son esprit s'efforçait de pénétrer l'avenir, de deviner ce qui arriverait le lendemain. Il vint ce lendemain qu'elle redoutait et qu'elle souhaitait. Jusqu'à 2 heures, elle compta les heures. Après, elle compta les minutes. Enfin, au moment où sonnait la demi de 2 heures, la porte du salon s'ouvrit et un domestique annonça « Monsieur le marquis de Clamerand !» Madame Fauvel s'était promis de rester calme, froide même. Pendant sa dure insomnie de la nuit, elle s'était efforcée de prévoir et d'arranger à l'avance toutes les circonstances de cette pénible entrevue. Même elle avait songé aux paroles qu'elle prononcerait. Elle devrait dire ceci, puis cela. Mais le moment suprême, son énergie l'a trahie. Une émotion affreuse la cloua sur son fauteuil, sans voix, sans idée. Lui, cependant, après s'être respectueusement incliné, restait debout au milieu du salon, immobile, attendant. C'était un homme de 50 ans, à la moustache aux cheveux grisonnants, au visage triste et sévère, ayant grand air et portant avec distinction ses vêtements noirs. Remué d'inexprimables sensations frissonnantes, Madame Fauvel le considérait, cherchant sur son visage quelque chose des traits de l'homme qu'elle avait aimé jusqu'à l'abandon de soi-même, de cet amant qui avait appuyé ses lèvres sur les siennes, qui l'avait pressé contre sa poitrine et dont elle avait eu un fils. Et elle s'étonnait de ne rien trouver chez l'homme mûr de l'adolescent dont le souvenir avait hanté sa vie. Non, rien. À la fin, comme il ne bougeait pas, d'une voix expirante, elle murmura « Gaston ?» Mais lui, secouant tristement la tête, répondit « Ah non, je ne suis pas Gaston, madame. Mon frère a succombé aux douleurs et aux misères de l'exil. Je suis Louis de Clamerand. » Quoi, ce n'était pas Gaston qui lui avait écrit? Ce n'était pas Gaston qui se tenait là, debout devant elle. Et que pouvait-il donc vouloir cet autre, ce frère, en qui Gaston autrefois n'avait pas eu, elle le savait, à cette confiance pour livrer leur secret? mille probabilités plus terrifiantes les unes que les autres se présentaient en même temps à sa pensée. Pourtant, elle réussit à dompter si promptement ses défaillances que Louis les aperçut à peine. L'affreuse étrangeté de sa situation, l'imminence même du péril donnait à son esprit une lucidité supérieure. D'un geste nonchalant, elle montra un fauteuil à Louis, en face d'elle, et du ton le plus calme, elle dit « Alors, monsieur, veuillez m'expliquer le but d'une visite à laquelle j'étais loin de m'attendre. » Le marquis ne voulut pas remarquer ce changement subit. Sans cesser de tenir ses yeux obstinément fixés sur les yeux de Madame Fauvel, il s'assit. « Avant tout, madame, commença-t-il, je dois vous demander si nul ne peut écouter ce que nous disons ici. »« Pourquoi cette question ? Oh, je ne crois pas que vous ayez à me dire rien que ne puissent entendre mon mari et mes enfants. » Louis haussa les épaules avec une affectation visible, à peu près comme un homme sensé aux divagations d'un fou. « Permettez-moi d'insister, madame, fit-il, non pour moi, mais pour vous. » « Mais parlez, monsieur, parlez sans crainte. Nous sommes à l'abri de toute indiscrétion. » En dépit de cette assurance, le marquis approcha son fauteuil auprès de la causeuse de Madame Fauvel afin de pouvoir parler bas, tout bas, comme s'il eût été effrayé de ce qu'il avait à dire. « Je vous l'ai dit, madame, reprit-il, Gaston est mort. Ainsi que cela devait être, c'est moi qui ai recueilli ses dernières pensées, c'est moi qui l'ai choisi pour être l'exécuteur de ses suprêmes volontés. Comprenez-vous maintenant ? » Elle ne comprenait que trop, la pauvre femme. Mais c'est en vain qu'elle s'efforçait de pénétrer les desseins de ce visiteur fatal. Peut-être venait-il simplement réclamer le précieux dépôt de Gaston. « Je ne vous rappellerai pas, poursuivait Louis, les funestes circonstances qui ont brisé la vie de mon frère et perdu son avenir. » Pas un des muscles du visage de Madame Fauvel ne bougea. Elle paraissait chercher dans sa mémoire à quelles circonstances Louis faisait allusion. « Vous avez oublié, madame, reprit-il d'un ton amer. Eh bien, je vais essayer de m'expliquer plus clairement. » Il y a longtemps, oh, bien longtemps de cela, vous avez aimé mon malheureux frère. Monsieur, oh, il est inutile de nier, madame. Gaston, faut-il que je vous le répète, m'a tout confié, tout, ajouta-t-il en soulignant le mot. Mais Madame Fauvel ne devait pas s'effrayer de cette révélation. Que pouvait être ce tout ? Rien, puisque Gaston était parti sans la savoir enceinte. Elle se leva et, avec une assurance qui était bien loin de son cœur, « Vous oubliez, ce me semble, monsieur, prononça-t-elle, que vous parlez à une femme vieille maintenant, mariée et mère de famille. Il se peut que votre frère m'ait aimé, c'est son secret et non le vôtre. Si, jeune et inexpérimentée, je n'ai pas été parfaitement prudente, ce n'est pas à vous de me le rappeler. » Il ne me le rappellerait pas, lui. Enfin, quel qu'ait été ce passé que vous évoquez, j'en ai depuis 20 ans perdu le souvenir. Ainsi vous avez oublié. Oui, tout, absolument. Même votre enfant, madame ? Cette phrase, lancée avec un de ces regards qui plongent jusqu'au fond de l'âme, atteignit Madame Fauvel comme un coup de massue. Elle se laissa retomber sur la causeuse, se disant « Quoi, il sait ? Mais comment a-t-il pu savoir ? » S'il ne se fût agi que d'elle, certes, elle n'eût point lutté, elle se serait rendue à discrétion. Mais elle avait le bonheur des siens à garder et à défendre. Et dans le sentiment de ce devoir sacré, elle puisait une énergie dont jamais on ne l'eût cru capable. « Mais je crois que vous m'insultez, monsieur, dit-elle. Ainsi, c'est bien vrai, vous ne vous souvenez plus de Valentin Raoul. Mais c'est donc une gageure. Elle voyait bien maintenant que cet homme savait tout, en effet. D'où peu lui importait, il savait. Mais elle était décidée, bien résolue à nier quand même, obstinément à nier devant les preuves les plus irrécusables, les plus évidentes. Un instant, elle eut la pensée de chasser honteusement le marquis de Clamart. La prudence l'arrêta. Elle se dit qu'il fallait au moins connaître quelque chose de ses projets. « Enfin, reprit-elle avec un rire forcé, mais où voulez-vous en venir ?»« Bien voici, madame. Il y a 2 ans, les hasards de l'exil conduisirent mon frère à Londres. Là, dans une famille, il rencontra un tout jeune homme du nom de Raoul. La physionomie, l'intelligence de cet adolescent frappèrent à ce point Gaston qu'il voulut savoir qui il était. C'était un pauvre enfant abandonné et tous les renseignements pris, mon frère acquit la certitude que ce Raoul était son fils, le vôtre, madame. Et c'est un roman que vous me récitez. Oui, madame, un roman et le dénouement est entre vos mains. Certes, la comtesse, votre mère, avait pris pour cacher votre secret les précautions les plus minutieuses et les plus savantes. Mais les plans les mieux conçus pêchent toujours par quelque endroit. Après votre départ, une des amies que votre mère avait à Londres est venue la relancer jusqu'au village où vous étiez établi. Cette dame a prononcé votre vrai nom devant la fermière qui avait été chargée de l'enfant. Tout était découvert. Mon frère a voulu des preuves. Il s'en est procuré d'irrécusables, de positives. Il s'arrêta, épiant sur le visage de Madame Fauvel l'effet de ses paroles. À sa grande surprise, elle ne semblait ni émue ni troublée. Son œil souriait. « Et après ?» interrogea-t-elle du ton le plus léger. Ensuite, madame, Gaston a reconnu cet enfant. Mais les Clamart sont pauvres, et c'est sur un grabat d'hôtel garni que mon frère est mort. Et je n'ai, moi, pour vivre qu'une pension de 1 200 francs. Que va devenir Raoul, seul, sans famille, sans protecteur, sans un ami? Ces inquiétudes ont torturé les derniers moments de mon frère. En vérité, monsieur, je finis, interrompit Louis. C'est alors que Gaston m'a ouvert son cœur. C'est alors qu'il m'a ordonné de venir vers vous. Valentine, m'a-t-il dit, Valentine se souviendra. Elle ne saurait supporter cette idée que notre fils manque de tout, même de pain. Elle est riche, très riche. Je meurs tranquille. Madame Fauvel s'était levée. Cette fois, c'était bien évidemment un congé. Vous avouerez, n'est-ce pas, monsieur, commença-t-elle, que ma patience est grande. Cette assurance imperturbable confondait si bien Louis qu'il ne répondit pas. Je veux bien vous dire, poursuivit-elle, qu'autrefois, en effet, j'ai eu la confiance de monsieur Gaston de Clamart. Je vais vous en donner une preuve en vous restituant les parures de la marquise, votre mère, qu'il m'avait confiées lors de son départ. Tout en parlant, elle avait pris sous un des coussins de la causeuse la bourse qui renfermait les bijoux. Elle l'attendait à Louis. Voici ce dépôt, monsieur le marquis, dit-elle. Permettez-moi de m'étonner que votre frère ne me l'ait jamais redemandé. Moins maître de soi, Louis eût laissé voir quelle surprise était la sienne. Oh, j'avais mission, fit-il d'un ton sec, de ne pas parler de ce dépôt. Sans répondre, Madame Fauvel étendit la main vers un cordon de sonnette. « Vous trouverez bon, monsieur, » fit-elle, « que je brise un entretien accepté uniquement pour vous restituer des bijoux précieux. » Ainsi repoussé, M. de Clamart ne crut pas devoir insister. « Soit, madame, » prononça-t-il, « je me retire. » « Je dois seulement ajouter que mon frère m'a dit encore, Si Valentine avait tout oublié et si elle refusait d'assurer l'avenir de notre fils, je t'ordonne de l'y contraindre. Méditez ces paroles, madame, car ce que j'ai juré de faire, sur mon honneur, je le ferai. Enfin, madame Fauvel était seule, elle était libre. Enfin, elle pouvait, sans crainte, laisser éclater son désespoir. Épuisée par les efforts qu'il lui avait fallu faire pour rester calme sous l'œil de Clamoran, elle se sentait brisée de corps et d'âme. C'est à peine si elle eut la force de gagner en chancelant sa chambre à coucher et de s'y enfermer. Maintenant, plus de doute. Ses craintes étaient devenues des réalités. Elle pouvait avec certitude sonder les profondeurs du précipice où on allait la pousser et où elle entraînerait tous les siens. Ah, mais pourquoi avait-elle écouté sa mère? Pourquoi s'était-elle tue? Plus d'espoir, désormais. Cet homme qui venait de s'éloigner la menace à la bouche, il reviendrait. Elle ne le comprenait que trop. Et que lui répondrait-elle? Il s'en était fallu de bien peu qu'elle se trahît quand Louis avait parlé de Raoul. Ses entrailles avaient tressailli au nom du pauvre abandonné qui expiait les fautes de sa mère. À l'idée que peut-être il subirait les étreintes de la misère, tout son être frémissait d'une douleur aiguë. Lui manquait de pain, lui son enfant. Et elle était riche et tout Paris enviait son luxe. Ah, mais que ne pouvait-elle mettre à ses pieds tout ce qu'elle possédait? Avec quelle délice elle eût épuisé les plus pénibles privations. Mais comment, sans se livrer, lui faire tenir assez d'argent pour le mettre à l'abri des difficultés de la vie? C'est que la voix de la prudence lui criait qu'elle ne devait pas, qu'elle ne pouvait pas accepter l'entremise de Louis de Clamoran. Se confier à lui, c'était se mettre à sa merci, soit elle est sienne, et lui inspirait une terreur instinctive. Elle en était à se demander si vraiment il lui avait dit la vérité. En repassant dans sa tête le récit de cet homme, elle y trouvait des lacunes et des invraisemblances presque choquantes. Comment Gaston, revenu en France, habitant Paris, pauvre autant que le disait son frère, n'avait-il pas redemandé à la femme le dépôt confié à la jeune fille? Comment, redoutant l'avenir pour leur enfant, n'était-il pas venu la trouver puisqu'il la supposait riche à ce point que, mourant, il se reposait sur elle? Mille inquiétudes vagues s'agitaient dans son esprit. Elle était pleine de soupçons inexpliqués, d'indéfinissables défiances. Elle comprenait qu'une seule démarche positive la liait à tout jamais. Et alors, que n'exigerait-on pas d'elle? Un moment, elle eut l'idée de se jeter aux pieds de son mari et de lui tout avouer. Malheureusement, elle repoussa cette pensée de salut. Son imagination lui représentait l'atroce douleur de cet honnête homme, découvrant après plus de 20 années qu'il avait été odieusement joué. Elle connaissait assez André pour savoir qu'il ne dirait rien et qu'il ferait tout pour étouffer cette horrible affaire. Mais s'en serait fait du bonheur de la maison. Il déserterait le foyer, les fils s'en iraient de leur côté, tous les liens de la famille seraient brisés. Par bonheur, le banquier était absent, et les 2 jours qui suivirent la visite de Louis, madame Fauvel put garder la chambre et personne ne s'aperçut de ses agitations. Si, pourtant, Madeleine, avec sa finesse de femme, devina qu'il y avait autre chose que la maladie nerveuse dont se plaignait sa tante et pour laquelle le médecin prescrivait toutes sortes de potions calmantes. Même elle remarqua fort bien que cette maladie semblait avoir été déterminée par la visite d'un personnage à figure sévère qui était resté longtemps seul avec sa tante. Madeleine pressentait si bien un secret que le second jour, voyant madame Fauvel plus inquiète, elle osa lui dire « Mais tu es triste, chère tante, qu'as-tu? Parle-moi, veux-tu que je fasse prier notre cher curé de venir causer avec toi? » Et c'est avec une aigreur bien surprenante chez elle, qui était la douceur même, que Madame Fauvel repoussa la proposition de sa nièce. Ce que Louis avait prévu arrivait. À la réflexion, ne voyant nulle issue à sa déplorable situation, Madame Fauvel, peu à peu, se déterminait à céder. En consentant à tout, elle avait une chance de tout sauver. Elle ne s'abusait pas, elle comprenait bien qu'elle se préparait une vie impossible, mais au moins elle souffrirait seule, et dans tous les cas, elle gagnerait du temps. Cependant, M. Fauvel était de retour, et Valentine, en apparence du moins, avait repris ses habitudes. Mais ce n'était plus l'heureuse mère de famille, la femme au visage souriant et reposé, si assurée en son bonheur, si calme en face de l'avenir. Tout en elle décelait d'horribles inquiétudes. Sans nouvelles de Clamoran, elle l'attendait, pour ainsi dire, à chaque minute du jour, tressaillante à chaque coup de sonnette, pâlissant toutes les fois que la porte s'ouvrait, n'osant sortir dans la crainte qu'il ne se présentât dans son absence. Le condamné à mort qui, chaque matin en s'éveillant, se dit « Sera-ce pour aujourd'hui ?» n'a pas de plus épouvantables angoisses. Clamoran ne vint pas. Il écrivit, ou plutôt, comme il était trop prudent pour préparer des armes contre lui, il fit écrire un billet dont seule Madame Fauvel pouvait connaître le sens, et où, se disant malade, il s'excusait d'être forcé de lui donner rendez-vous pour le surlendemain chez lui, à l'hôtel du Louvre. Cette lettre fut presque un soulagement pour Madame Fauvel. Elle en était à tout préférée à ses anxiétés. Elle était résolue à consentir à tout. Elle brûla donc la lettre en se disant « J'irai ». Le surlendemain, en effet, à l'heure indiquée, elle mit la plus simple de ses robes noires, celui de ses chapeaux qui lui cachait le mieux le visage, glissa dans sa poche une voilette et sortit. Ce n'est que fort loin de chez elle qu'elle osa prendre un fiacre qui la déposa devant l'hôtel du Louvre. La chambre de M. le marquis Louis de Clamoran était, lui dit le concierge, au troisième étage. Elle s'élança, heureuse d'échapper à tous les regards qui lui semblaient s'attacher à elle. Mais en dépit de minutieuses indications, elle se perdit dans l'immense hôtel et longtemps erra dans les interminables corridors. Enfin, elle arriva devant une porte, au-dessus de laquelle était le numéro indiqué 317. Elle s'arrêta, appuyant ses deux mains sur sa poitrine, comme pour comprimer les palpitations de son cœur qui battait à se briser. Au moment d'entrer et au moment de risquer cette démarche décisive, une frayeur immense l'envahissait au point de paralyser ses mouvements. La vue d'un locataire de l'hôtel qui traversait le corridor mit fin à ses hésitations. D'une main tremblante, elle frappa trois coups bien légers. « Entrez !» dit une voix. Elle entra. Mais ce n'était pas le marquis de Clamoran qui était au milieu de cette chambre. C'était un tout jeune homme, presque un enfant, qui la regardait d'un air singulier. La première impression de Madame Fauvel fut qu'elle se trompait. « Je vous demande pardon, monsieur, balbutia-t-elle, plus rouge qu'une pivoine. Je croyais entrer chez monsieur le marquis de Clamoran. » « Mais vous êtes chez lui, madame, » répondit le jeune homme. Et, voyant qu'elle ne disait mot, qu'elle semblait se demander comment se retirer, comment s'enfuir, il ajouta « C'est, je crois, à madame Fauvel que j'ai l'honneur de parler. » De la tête, elle fit un signe affirmatif, oui. Elle frémissait d'entendre son nom ainsi prononcé. Elle était épouvantée par cette certitude qu'on la connaissait, que Clamoran avait déjà livré son secret. C'est avec une anxiété visible qu'elle attendait une explication. Rassurez-vous, madame, reprit le jeune homme, vous êtes en sûreté ici autant que dans le salon de votre hôtel. Monsieur de Clamant m'a chargé pour vous de ses excuses, vous ne le verrez pas. Mais cependant, monsieur, d'après une lettre pressante qu'il m'a fait tenir avant-hier, je supposais. Lorsqu'il vous a écrit, madame, il avait des projets auxquels il a renoncé pour toujours. Madame Fauvel était bien trop surprise, bien trop troublée pour pouvoir réfléchir. Or, le moment présent, elle ne discernait rien. Quoi ? Fit-elle avec une certaine défiance. Ses intentions sont changées ? La physionomie du jeune interlocuteur de Madame Fauvel trahissait une sorte de compassion douloureuse, comme s'il eût reçu le contre-coup de toutes les angoisses de la malheureuse femme. Bien le marquis, prononça-t-il d'une voix douce et triste, renonce à ce qu'il considérait à tort comme un devoir sacré. Vous croyez longtemps qu'il a longtemps hésité avant de se résigner à aller vous demander le plus pénible des aveux. Vous l'avez repoussé, vous deviez refuser de l'entendre. Il n'a pas compris quelles impérieuses raisons dictaient votre conduite. Ce jour-là, aveuglé par une injuste colère, il avait juré d'arracher à l'effroi ce qu'il n'obtenait pas de votre cœur. Résolu à menacer votre bonheur, il avait amassé contre vous de ces preuves qui font éclater l'évidence. Un serment juré à un frère mourant le liait. Il avait pris sur la cheminée une liasse de papier qu'il feuilletait tout en parlant. Ces preuves, poursuivait-il, les voici, flagrantes, irrécusables. Voici le certificat du révérend Sedley, la déclaration de Mistress Dolbin, la fermière, une attestation du chirurgien, les dépositions des personnes qui ont connu à Londres Madame de la Verberie. Oh, rien n'y manque. Toutes ces preuves, ce n'est pas sans peine que je les lui ai arrachées à M. de Clamant. Peut-être avait-il pénétré mes intentions. Et voici, madame, ce que je voulais faire de ces preuves. Et d'un mouvement rapide, il lança dans le feu tous les papiers. Ils s'enflammèrent et bientôt ne furent plus qu'une pincée de cendres. « Tout est détruit, madame, » reprit-il, l'œil brillant des plus généreuses résolutions. « Le passé, si vous le voulez, est anéanti comme ces papiers. Si quelqu'un à cette heure ose prétendre qu'avant votre mariage vous avez eu un fils, traitez-le hardiment de calomniateur. Il n'y a plus de preuves, vous êtes libre. » Enfin, aux yeux de madame Fauvel, le sens de cette scène éclatait. Elle commençait à comprendre, elle comprenait. Ce jeune homme qui l'arrachait à la colère de Clamorant, qui lui rendait le libre exercice de sa volonté en détruisant des preuves accablantes qui la sauvaient. C'était l'enfant abandonné, Valentin Raoul. En ce moment, elle oublia tout. Les tendresses de la mère, si longtemps comprimées, débordèrent. Et d'une voix à peine distincte, elle murmura « Raoul !» À ce nom ainsi prononcé, le jeune homme chancela. On eût dit qu'il pliait sous l'excès d'un bonheur inespéré. « Oui, Raoul » s'écria-t-il. « Raoul, qui aimerait mieux mourir mille fois que de causer à sa mère la plus légère souffrance. Raoul qui verserait tout son sang pour lui éviter une larme. Elle n'essaya ni de lutter ni de résister. Tout son être vibrait, comme si ses entrailles eussent tressailli en reconnaissant celui qu'elles avaient porté. Elle ouvrit ses bras et Raoul s'y précipita en disant d'une voix étouffée « Ma mère, ma bonne mère, sois bénie pour ce premier baiser. » C'était vrai, cependant. Ce fils, elle ne l'avait jamais vu. Malgré ses prières et ses larmes, on l'avait emporté sans même lui permettre de l'embrasser, et ce baiser qu'elle venait de lui donner était bien le premier. après tant de si cruelles angoisses, trouver cette joie immense en cet étreau de bonheur. Madame Fauvel s'était laissée tomber sur un fauteuil et plongée dans une sorte d'extase recueillie, elle considérait avidement Raoul qui s'était agenouillé à ses pieds. Combien il lui paraissait beau, ce pauvre abandonné! Il avait cette rayonnante beauté des enfants de l'amour dont la physionomie garde comme un reflet de félicité divine. De la main, elle éparpillait ses beaux cheveux fins et ondés. Elle admirait son front blanc et pur comme celui d'une jeune fille, ses grands yeux tremblants, elle avait soif de ses lèvres si rouges. « Oh, mère, disait-il, je ne sais ce qui s'est passé en moi quand j'ai su que mon oncle avait osé te menacer. Lui te menacer. C'est que vois-tu, mère chérie? J'ai votre cœur à tous deux, à toi et à ce noble Gaston de Clamoran, mon père. Va, quand il a dit à son frère de s'adresser à toi, il n'avait plus sa pleine raison. Je le connaissais bien et depuis longtemps. Souvent, mon père et moi, nous allions rôder autour de ton hôtel. Et quand nous t'avions aperçu, nous rentrions heureux. Tu passais, il me disait. Voici ta mère, Raoul. Te voir, c'était notre joie. Et quand nous savions que tu devais te rendre à quelque fête, nous t'attendions à la porte pour t'apercevoir, belle et parée. Que de fois l'hiver, j'ai lutté de vitesse avec les chevaux de la voiture pour t'admirer plus longtemps. Des larmes les plus douces qu'elle eût versées de sa vie inondaient le visage de Madame Fauvel. La voix vibrante de Raoul chantait à son oreille de célestes harmonies. Cette voix lui rappelait celle de Gaston, et elle lui rendait les fraîches et adorables sensations de sa jeunesse. Oui, en l'écoutant, elle retrouvait l'enchantement des premières rencontres, les tressaillements de son âme encore vierge, le trouble mystérieux des sens. Entre le moment où, un soir, elle s'était abandonnée frémissante aux bras de Gaston et l'heure présente, il lui semblait qu'il n'y avait rien. André, ses deux fils, Madeleine, elle les oubliait, emportée dans ce tourbillon de tendresse. Raoul, cependant, continuait. « C'est hier seulement que j'ai su que mon oncle était allé te demander pour moi quelques miettes de ta richesse. » À quoi bon? Je suis pauvre, c'est vrai, très pauvre. Mais la misère ne m'épouvante pas, je la connais. J'ai mes bras et mon intelligence, c'est de quoi vivre. Tu es très riche, dit-on, mais qu'est-ce que cela me fait? Garde toute ta fortune, mère chérie, mais donne-moi un peu de ton cœur. Laisse-moi t'aimer. Promets-moi que ce premier baiser ne sera pas le dernier. Personne ne saura rien, sois sans crainte, je saurai bien cacher mon bonheur. » Et Madame Fauvel avait pu redouter ce fils. Ah, combien elle se le reprochait, combien elle se reprochait aussi de n'avoir pas plus tôt volé au-devant de lui. Elle l'interrogeait, ce fils, elle voulait connaître sa vie, savoir comment il avait vécu, ce qu'il avait fait. Il n'avait rien à lui cacher, disait-il. Son existence avait été celle des enfants des pauvres. La fermière à qui on l'avait confié lui avait toujours témoigné une certaine affection. Même lui trouvant bon air et l'air intelligent, elle avait pris plaisir à lui faire donner une certaine éducation au-dessus de ses moyens à elle et de sa condition à lui. À 16 ans, on l'avait placé chez un banquier. Et à force de travail, il commençait à gagner son pain, quand un jour un homme était venu qui lui avait dit « Je suis ton père » et l'avait emmené. Depuis, rien n'avait manqué à son bonheur, rien que la tendresse d'une mère. Il n'avait vraiment souffert qu'une fois en sa vie, le jour où Gaston de Clamoran, son père, était mort entre ses bras. Mais maintenant, disait-il, tout est oublié, tout. Et j'étais malheureux, je n'en sais plus rien, puisque je te vois, puisque je t'aime. Le temps passait et Madame Fauvel ne s'en apercevait pas. Raoul heureusement veillait. « Oh, 7 heures !» s'écria-t-il tout à coup. Cette exclamation ramena brusquement Madame Fauvel au sentiment de la réalité. « 7 heures, mais son absence si longue serait peut-être remarquée. »« Te reverrai-je, ma mère ?» demanda Raoul au moment où ils se séparaient. « Oh, oui, répondit-elle, avec l'accent d'une tendresse folle. « Oui, souvent, tous les jours, demain. » C'était depuis qu'elle s'était mariée, la première fois, que Madame Fauvel s'apercevait qu'elle n'était pas absolument maîtresse de ses actions. Jamais encore elle n'avait eu occasion de souhaiter une liberté sans contrôle. C'est son âme même qu'elle laissait dans cette chambre de l'hôtel du Louvre, où elle venait de retrouver un fils. Et il lui fallait l'abandonner. Elle était condamnée à cet intolérable supplice de composer son visage, de cacher cet événement immense qui bouleversait sa vie. Ayant eu quelque peine à se procurer un fiacre pour le retour, il était plus de 7 heures et demie quand elle arriva rue de Provence, où on l'attendait pour se mettre à table. M. Fauvel, l'ayant plaisanté de ce retard, elle le trouva commun, vulgaire et même un peu niais. Telles sont les révolutions soudaines de la passion, qu'elle le jugeait presque ridicule pour cette confiance sans bornes qu'il avait en elle. Et c'est avec un calme imperturbable, sans trouble, presque sans effort, qu'elle, d'ordinaire si craintive, elle répondit à ses plaisanteries. Si enivrantes avaient été ses sensations près de Raoul, que dans son délire elle était incapable de rien désirer, de rien rêver, au-delà du renouvellement de ses émotions délicieuses. Plus d'épouse dévouée, plus de mère de famille incomparable. C'est à peine si elle s'arrêtait à l'idée de ses deux fils. Ils avaient toujours été heureux et aimés, eux. Ils avaient un père, ils étaient riches. Tandis que l'autre, oh l'autre, quelle compensation ne lui devait-elle pas ? Encore un peu, et dans son aveuglement, elle eut rendu les siens responsables des misères de Raoul. Et nul remords, pas un tressaillement de conscience, nulle appréhension des événements. Sa folie était complète. L'avenir pour elle, c'était le lendemain. L'éternité et les 16 heures qui la séparaient d'une nouvelle entrevue. La mort de Gaston lui paraissait être l'absolution du passé, aussi bien que du présent. Mais elle regrettait d'être mariée. Libre, elle eût pu se consacrer tout entière à Raoul. Elle était riche, mais c'est avec bonheur qu'elle lui donnait son luxe pour la pauvreté avec lui. Ni son mari, ni ses fils ne soupçonneraient jamais les pensées qui l'agitaient. Oh, elle était tranquille de ce côté. Mais elle redoutait sa nièce. Il lui semblait que, lorsqu'elle était rentrée, Madeleine avait arrêté sur elle des regards singuliers. Se doutait-elle donc de quelque chose ? Elle l'avait depuis longtemps, plusieurs jours, poursuivi de questions étranges. Il fallait se défier d'elle. Et cette inquiétude changea en une sorte de haine l'affection qu'avait Madame Fauvel pour sa fille d'adoption. Elle, si bonne, si aimante, elle eut regret de l'avoir recueillie et de s'être ainsi donné un de ces vigilants espions à qui rien n'échappe. Comment se dérober, se demandait-elle, à cette sollicitude inquiète du dévouement, à cette pénétration d'une jeune fille qui s'était habituée à suivre sur son visage la trace de ses plus fugitives émotions ? Et c'est avec une indicible joie qu'elle découvrit un moyen à sa portée. Depuis 2 ans bientôt, il était question d'un mariage entre Madeleine et le caissier de la maison, Prosper Bertomy, le protégée du banquier. Madame Fauvel se dit qu'elle n'avait qu'à s'occuper de cette union et à la presser autant que possible. Madeleine mariée irait habiter avec son mari et lui laisserait la libre disposition de ses journées. Le soir même, elle osa parler la première de Prosper et, avec une duplicité dont elle eût été incapable quelques jours plus tôt, elle arracha le dernier mot de Madeleine. « Ah, c'est ainsi, mademoiselle la mystérieuse, dit-elle gaiement, que vous vous permettez de choisir entre tous vos soupirants sans ma permission. Mais ma bonne tante, il me semble, quoi, que je devais deviner, mais c'est ce que j'ai fait. » Elle prit un air sérieux et ajouta, « Bien cela étant, il ne reste plus qu'à obtenir le consentement de Maître Prosper. Oh, le donnera-t-il ? Lui, ma tante, oh, s'il avait osé. Ah, vraiment, tu sais cela, mademoiselle ma nièce ? » Intimidée, confuse, toute rouge, Madeleine baissait la tête. Madame Fauvel l'attira vers elle. « Cher enfant, poursuivit-elle de sa plus douce voix, pourquoi craindre ? N'as-tu donc pas deviné, toi, si rusé, que depuis longtemps ton secret est le nôtre ? Prosper serait-il donc admis à notre foyer comme s'il était de la famille, s'il était d'avance agréé par ton oncle et par moi ? » Un peu pour cacher sa joie, peut-être, Madeleine se jeta sur le cou de sa tante en murmurant « oh merci, tu es bonne, tu m'aimes !» De son côté, Madame Fauvel se disait « Oh, je vais sans retard engager André et encourager Prosper, et avoir deux mois, ses enfants peuvent être mariés. » Malheureusement, emportée dans le tourbillon d'une passion qui ne lui laissait pas une minute de réflexion, elle remit ce projet. Passant à l'hôtel du Louvre, près de Raoul, une partie de ses journées, elle ne cessait de rêver au moyen de lui préparer une position et de lui assurer une fortune indépendante. Elle avait encore osé lui parler de rien. À mesure qu'elle le connaissait mieux, qu'il se livrait davantage, elle croyait découvrir en lui tout le noble orgueil de son père et des fiertés si susceptibles qu'elle tremblait d'être repoussée. Sérieusement, elle se demandait s'il consentirait jamais à accepter d'elle la moindre des choses. Au plus fort de ses hésitations, le marquis Louis de Comaran vint à son secours. Elle l'avait revu souvent depuis le jour où il l'avait tant effrayée, et à sa répulsion première succédait une secrète sympathie. Elle l'aimait pour toute l'affection qu'il témoignait à son fils. Si Raoul, insoucieux comme on l'est à 20 ans, se moquait de l'avenir, Louis, cet homme de tant d'expérience, paraissait vivement préoccupé du sort de son neveu. C'est pourquoi, un jour, après quelques considérations générales, il aborda cette grave question d'une situation. Vivre ainsi que le fait mon beau-neveu, comment ça-t-il est charmant, sans doute. Cependant, ne serait-il pas sage à lui de penser à s'assurer un état dans le monde ? Il n'a aucune fortune. Eh, cher oncle, interrompit Raoul, laisse-moi donc être heureux sans remords, que me manque-t-il ? « Rien en ce moment, mon beau neveu, mais quand tu auras épuisé les ressources et les miennes, et ce sera pas long, que deviendras-tu ? » « Bah, je m'engagerai, tous les clamerants sont soldats de naissance, et s'il survient une guerre ?» Madame Fauvel l'arrêta en lui mettant doucement sa main devant la bouche. « Méchant enfant, disait-elle d'un ton de reproche. « Te faire soldat ? Mais tu veux donc me priver du bonheur de te voir ? Non, mère chérie, non. Mais tu vois bien, insista Louis, qu'il faut nous écouter. Non, mais je ne demande pas mieux, mais plus tard. Je travaillerai, je gagnerai énormément d'argent. » Mais à quoi, pauvre enfant, comment ? Non, je ne sais pas, mais soyez tranquille, je chercherai, je trouverai. » Il était difficile de faire entendre raison à ce jeune présomptueux. Louis et Madame Fauvel eurent à ce sujet de longs entretiens, et ils se promirent bien de lui forcer la main. Seulement, choisir une profession était malaisé, et Clabran pensa qu'il serait prudent de réfléchir, de consulter les goûts du jeune homme. En attendant, il fut convenu que Madame Fauvel mettrait à la disposition du marquis de quoi subvenir à toutes les dépenses de Raoul. Voyant en ce frère de Gaston un père pour son enfant, Madame Fauvel en était venue rapidement à ne plus pouvoir se passer de lui. Sans cesse, elle avait besoin de le voir, soit pour le consulter au sujet d'idées qui lui venaient, soit pour lui adresser 1000 recommandations. Ainsi fut-elle très satisfaite le jour où il lui demanda de lui faire l'honneur de le recevoir chez elle ouvertement. Rien n'était si facile. Elle présenterait à son mari le marquis de Clabran comme un vieil ami de sa famille, et il ne tiendrait qu'à lui de devenir un intime. Madame Fauvel ne devait pas tarder à s'applaudir de cette décision. Ne pouvant absolument continuer à voir Raoul tous les jours, n'osant, si elle lui écrivait, recevoir ses réponses, elle avait de ses nouvelles par Louis. Les nouvelles ne restèrent pas longtemps bonnes, et moins d'un mois après le jour où Madame Fauvel avait retrouvé son fils, Clabran lui avoua que Raoul commençait à l'inquiéter sérieusement. Le marquis s'exprimait d'un ton et d'un air à donner froid au cœur d'une mère, non sans embarras pourtant en homme qui sait, pour remplir un devoir, triompher de vives répugnances. « Mais qu'y a-t-il ? » demanda Madame Fauvel. « Il y a, répondit Louis, quand ce jeune homme, je retrouve l'orgueil et les passions des Clabran. Il est de ces natures dont rien n'arrête les emportements, que les obstacles irritent, que les représentations exaspèrent, et je ne vois pas de digue à opposer à ces violences. Mais grand Dieu, que peut-il avoir fait ? Oh, rien de précisément blâmable, rien d'irréparable à coup sûr, mais son avenir m'effraie. Il ne sait rien encore de nos bontés pour lui. Il croit puiser à ma bourse et je lui vois la prodigalité d'un fils de millionnaire. » Madame Fauvel n'eût pas été mère si elle n'eût essayé de prendre la défense de Raoul. « Peut-être êtes-vous un peu sévère, dit-elle. Pauvre enfant, il a tant souffert. Il n'a connu jusqu'ici que les privations, et le bonheur le grise. Il se jette sur le plaisir comme un affamé sur un bon repas. Est-ce si surprenant ? Allez, il reviendra promptement à la raison. Il a bon cœur. » Il a été si malheureux. Là était pour Madame Fauvel l'excuse de Raoul. C'est cette phrase que sans cesse elle répétait à M. de Clabran toutes les fois qu'il se plaignait de son neveu. Et certes, ayant une fois commencé, il ne cessait de se plaindre. « Rien de la reine, gémissait-il, une folie qui lui passe par la tête est une folie faite. » Mais Madame Fauvel ne voyait là nulle raison d'en vouloir à son fils. C'est pourquoi, voyant que ses efforts n'arrêtaient pas ce jeune imprudent sur une pente désastreuse, il somma Madame Fauvel d'user enfin de son influence. Elle devait, pour l'avenir de son enfant, entrer plus intimement dans sa vie et le voir tous les jours. « Hélas !» répondit la pauvre femme, « ce sera là mon vœu le plus cher, mais comment faire ? Ai-je le droit de me perdre ? J'ai d'autres enfants auxquels je dois compte de mon honneur. » Cette réponse parut étonner le marquis de Clabran. 15 jours plus tôt, Madame Fauvel n'eut point parlé de ses autres fils. « Je réfléchirai, dit Louis. Peut-être à notre prochaine entrevue aurai-je l'honneur de vous soumettre une combinaison qui conciliera tout. » Les réflexions d'un homme de tant d'expérience ne pouvaient être vaines. Il paraissait fort rassuré quand il se présenta le jeudi suivant. « Bien, j'ai cherché, commença-t-il, et j'ai trouvé. »«
Quoi ?»«
Le moyen de sauver Raoul. » Il s'expliqua. Madame Fauvel, ne pouvant sans éveiller les soupçons de son mari, voir tous les jours son fils, il fallait qu'elle le reçût chez elle. Cette proposition seule fit horreur à une femme qui certes avait été bien imprudente, bien coupable même, mais qui était l'honneur même. « Ah non, c'est impossible !» s'écria-t-elle. « Ce serait vil, odieux, infâme !»«
Oui, répondit le marquis, devenu songeur, mais ce serait le salut de l'enfant. »
Mais elle sut pour cette fois résister. Elle résista avec une violence d'indignation, avec une énergie faite pour décourager une volonté moins ferme que celle du marquis de Clamant. « Non, non, répétait-elle, non, non, je ne saurais consentir. » Malheureuse! Sait-on, quand on quitte le droit chemin, quelle boue et quelle fondrière on affronte? Elle n'avait dit jamais du plus profond de son âme. Et à la fin de la semaine, on en était non plus à repousser désespérément ce projet, mais à en discuter les moyens. Voilà où l'avait conduite une marche savante. Éperdue, harcelée, elle se débattait vainement entre les insistances poliment menaçantes de Clamerand, les prières et les câlineries de Raoul. « Mais comment, disait-elle, sous quel prétexte recevoir Raoul ?»« Ce serait fort simple, répondait Clamerand, s'il s'agissait de l'admettre comme on admet un étranger. » « J'ai bien l'honneur, moi, d'être déshabitué de votre salon. Pour Raoul, il faut mieux. » Ce n'est qu'après avoir longtemps torturé Madame Fauvel, après avoir brisé sa volonté, presque sa raison, par de continuelles alternatives de terreur ou d'attendrissement, qu'il révéla son projet définitif. « Nous tenons, dit-il, enfin la solution du problème. C'est une véritable inspiration. » Elle devina bien à son accent qu'il allait découvrir le fond de sa pensée, et elle l'écoutait avec cette lamentable résignation du condamné qui entend rire son arrêt. « N'avez-vous pas, poursuivait Louis, à Saint-Rémy, une de vos parentes, très âgée, veuve, n'ayant eu que deux filles ?»«
Oui, ma cousine de Lagore. »«
Oui, c'est la même. » « Et quelle est sa situation de fortune ?»«
Oh, elle est pauvre, monsieur, très pauvre. »«
Oui, précisément, et sans les secours que vous lui adressez en secret, elle serait à la charité. » Madame Fauvel n'en pouvait revenir de voir le marquis si bien en informé.
« Quoi, balbutia-t-elle, vous savez cela ?»«
Oh oui, madame, cela et bien d'autres choses encore. » Je sais par exemple que votre mari ne connaît personne de votre famille et que c'est à peine s'il se doute de l'existence de votre cousine de Lagore. Commencez-vous à comprendre mon plan ? Elle l'entrevoyait au moins et elle se demandait comment résister. Eh bien voici donc, poursuivait Louis, ce que j'ai imaginé. Demain ou après-demain, vous recevrez de Saint-Rémy une lettre de votre cousine, vous annonçant qu'elle envoie son fils à Paris et vous priant de veiller sur lui. Naturellement, vous montrez cette lettre à votre mari, et quelques jours plus tard, il reçoit à merveille son neveu Raoul de Lagore, un charmant garçon, riche, spirituel, aimable, qui fera tout pour lui plaire et qui lui plaira.
« Jamais, monsieur, s'écria Madame Fauvel, jamais ma cousine, qui est une honnête femme, ne prêtera les mains à cette comédie révoltante. »
Le marquis eut un sourire plein de fatuité. « Vous ai-je dit, me demanda-t-il, que je mettrais la cousine dans la confidence ?»«
Il le faudrait bien. » »«
Aucun ennemi ! La lettre que vous recevrez et que vous rencontrerez aura été dictée par moi, à la première femme venue. »
et mise à la poste à Saint-Rémy par une personne de confiance. Si j'ai parlé des obligations que vous avez à votre cousine, c'est pour vous montrer qu'en cas d'accident, son intérêt vous répond d'elle. Apercevez-vous encore quelque obstacle ?
Madame Fauvel s'était levée, transportée d'indignation. « Mais il y a ma volonté, s'écria-t-elle, que vous ne comptez pas. »«
Pardon, fit le marquis avec une politesse railleuse. « Oh, je suis sûr que vous vous rendrez à mes raisons. »«
Mais c'est un crime, monsieur, que vous me proposez, un crime abominable. »
Clamaran, lui aussi, s'était levé. Toutes ses passions mauvaises mises en jeu donnaient à sa pâle figure une expression atroce. « Je crois, reprit-il avec une violence contenue, que nous ne nous entendons pas. Avant de parler de crime, rappelez-vous le passé. Vous étiez moins timoré le jour où, jeune fille, vous avez pris un amant. Il est vrai que vous l'avez renié, cet amant, que vous avez refusé de le suivre lorsque, pour vous, il venait de tuer deux hommes et de risquer l'échafaud. Vous n'aviez pas de ces préjugés mesquins. Quand après un accouchement clandestin à Londres, vous abandonniez votre enfant. On doit vous rendre cette justice, que cet enfant vous l'avez oublié absolument, et que, riche à millions, vous ne vous êtes pas informé s'il avait du pain. Où donc étaient vos scrupules au moment d'épouser M. Fauvel ? Avez-vous dit à cet honnête homme quel front cachait votre couronne d'oranger ? Voilà des crimes. Et quant au nom de Gaston, je vous demande réparation, vous vous révoltez. Il est trop tard. Vous avez perdu le père, madame, vous sauverez le fils, ou sur mon honneur, vous ne volerez pas plus longtemps l'estime du monde. J'obéirai, monsieur, murmura l'infortuné, vaincu, écrasé. Et 8 jours après, en effet, Raoul, devenu Raoul de Lagor, dînait chez le banquier entre Madame Fauvel et Madeleine.